Et on le rejoint au bout du fil tout de suite, Olivier Beauregard, pour parler sport. Olivier, bonjour.
Salut Sébastien.
On commence en parlant du bal des transactions qui est amorcé. Ça va se dérouler, ça. C'est tiré jusqu'au 8 mars. Il reste un mois, en fait.
Oui, exact. Puis dans la Ligue nationale de hockey, généralement, les directeurs généraux attendent une transaction pour ensuite commencer à magasiner, commencer à bouger. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Puis on dirait que cette année, ceux qui ont parti, justement, ce bal-là, c'est l'état-major du Canadien de Montréal avec la transaction de Sean Monahan. Rappelez-vous, ça s'est fait un peu plus tôt. La semaine dernière, là, Sean Monahan a été transigé au Jets de Winnipeg. Et c'est une bonne transaction là quand on regarde ça, parce que Sean Monahan n'a rien coûté aux Canadiens, même qu'ils ont reçu un choix de première ronde lorsqu'ils avaient fait l'acquisition de Monahan des Flames de Calgary. Alors, du côté de Kent Hughes, un travail colossal dans ce dossier-là, parce qu'on a échangé un gars comme Monahan. On est allé chercher un choix de première ronde, encore une fois, en 2024, et un choix conditionnel de troisième ronde en 2027. Écoute, c'est énorme, parce que, comme je le disais, le Canadien, là, dans le fond, ayant acquis les services de Monahan, ils ont été capables, avec ça, d'aller soutirer deux choix de premier tour, et ça, c'est pas n'importe quoi, là. C'est énorme pour la reconstruction d'une équipe. Et Sean Monahan, c'est un joueur qui, oui, a un certain talent offensif. On l'a vu avec le Canadien, a fait vraiment de belles choses. Là. Il a 13 buts, 35 points en 49 matchs. Là. C'est très, très respectable. Mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est que qu'il y avait toute une question entourant les blessures. Et Sean Monahan, cette année, a été épargné. Et ça l'a été, ça a donné un bon coup de main aux Canadiens pour le transiger aux Jets de Winnipeg, qui eux se voient loin en séries éliminatoires. Alors, avec cette acquisition-là, je pense que les deux parties sont gagnantes. C'est sûr que quand tu vas dans le vestiaire du Canadien, la perte d'un gars comme Monahan, c'est énorme, parce que c'est un joueur de centre gaucher qui faisait un travail, comme je le disais, le colossal derrière Nick Suzuki. Je pense que ça va manquer aux Canadiens, mais dans l'état actuel où le Canadien se voit pour une place en série, puis soyons honnêtes, les chances sont très peu probables que le Canadien se retrouve en série éliminatoire. Je pense que cette transaction-là va aider la reconstruction du Canadien qui se doit justement de se faire le plus rapidement possible. Parce que là, on parlait d'un plan de reconstruction à l'année 1 là, du règne Kent Hughes. Et là, on va tomber à l'année 3 l'an prochain pour que le Canadien fasse les séries. Alors, est-ce que ce choix de première ronde-là va servir de monnaie d'échange pour un joueur actif ou on va repêcher rapidement? Ça sera à suivre, mais bref. J'ai trouvé que c'était une belle transaction, mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est pas nécessairement juste pour la transaction de Monahan, c'est que par la suite, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a Elias Lindholm des Flames de Calgary qui, lui, a été échangé aux Canucks de Vancouver. Les Canucks sont de sérieux aspirants à la Coupe Stanley cette saison. Ils sont allés chercher un joueur très convoité. Et les Flames de Calgary, c'est comme si on était en mode liquidation. Cette équipe-là avait des attentes l'an dernier. Encore une fois cette année, malheureusement, plusieurs joueurs ne rencontrent pas les attentes. Je pense entre autres à Jonathan Huberdeau. Alors, on a décidé de vendre, faire une vente de feu. Alors, Elias Lindholm qui a quitté. Là, on parle de Chris Tanev également qui serait sur la liste. Chris Tanev qui serait un des défenseurs les plus convoités là, justement à la période de transaction. Il y a Noah Hanifin également des Flames. Le gardien Jacob Markstrom. Alors, ça, là, ça va bouger rapidement. Puis attendez pas jusqu'au 8 mars, parce que tu sais, la fameuse émission de télé qu'on écoute le 8 mars à 6h le matin.
Il me semble que les dernières années ont été plutôt chiches en informations et en échanges lors de cette journée-là.
C'est normal, tout se passe avant. Tu sais, les grosses transactions se passent avant. Échange Monahan, puis échange des nombres le 8 mars, là, tes émissions sont bookées pour la journée. Là, tu as des transactions d'envergure qui se préparent. Et moi, j'ai l'impression que les directeurs généraux attendront pas à la date limite des transactions. Tu sais, il y a plusieurs noms là, sur la liste. On pense au Québécois Alexandre Carrier, puis c'est drôle parce que je l'ai vu récemment à Gatineau, il était de passage lorsqu'il affrontait les Sénateurs d'Ottawa. J'ai discuté avec lui, puis lui, il s'attend à se faire échanger là, justement en raison de la situation des Prédateurs de Nashville. Alors, de son côté, ça serait pas surprenant. Il y a Jake Gunzel également qui pourrait être échangé, et on parle des Oilers d'Edmonton. Alors, tu sais, il y a beaucoup de mouvements, mais moi, je m'attends à ce que ça se fasse plutôt tard, parce que là, comme je le disais, avec Kent Hughes qui a bougé, les Canucks ont bougé quasiment immédiatement après. Ça fait en sorte que là, on est en train de voir un peu les cartes. Là. On joue à jeu ouvert au niveau des directeurs généraux, c'est-à-dire on veut rapidement combler nos besoins, s'assurer qu'on soit prêt pour le dernier droit de la saison et pour les séries éliminatoires. Alors, ça va être intéressant, et c'est comme je le disais, le 8 mars, c'est correct, là, les émissions commencent à 5h30 du matin. À un moment donné, ces émissions-là vont être appelées à disparaître parce qu'il ne se passe plus rien à la date limite. Là. Il va y avoir peut-être des transactions de dernière minute, des paniques que j'appelle, parce que généralement, là, Sébastien, quand tu es un directeur général qui veut bouger, là, t'attends pas à la dernière minute parce que tu sais que tu risques de perdre tes cartes. Alors, présentement, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Ça va se faire d'ici la fin de la semaine prochaine, il reste encore du temps d'ici le 8 mars, mais j'ai comme l'impression que ça va bouger bien avant la date limite des transactions.
Et on aura l'occasion de s'en reparler au fil de ce mois-là, justement. Restons dans le monde du hockey, dans la LNH, parce qu'on a appris que les joueurs de la Ligue nationale seront de retour aux Jeux olympiques.
Après, nous dit-on, des négociations ardues qui ont lieu jusqu'à 2h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, là, finalement, on s'est entendu, la Ligue nationale de hockey sera de retour aux Jeux olympiques en 2026 en Italie, puis en 2030, également. Et on dit même que fort possiblement que la Ligue nationale va réussir à s'entendre pour être du côté de Salt Lake City en 2034. Ça, c'est une excellente nouvelle pour les amateurs de hockey qui veulent voir justement les équipes là s'affronter dans disons la plus grande scène internationale au niveau du sport. Moi, je suis content. Je fais partie des gens qui sont contents de revoir un tournoi olympique avec les meilleurs joueurs de hockey au monde parce que je vais te dire, ça a perdu son cachet là, au courant des dernières années, malheureusement. C'est le fun qu'il y ait des gars qui ont eu des chances qu'ils normalement n'en auraient pas eu. Mais soyons honnêtes, de voir un McDavid, Crosby, MacKinnon jouer sur la même ligne ou jouer pour la même équipe, moi, honnêtement, ça m'excite au plus haut point. Ça va être une équipe incroyable. Alors ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Chose certaine, il va y avoir quand même encore une fois, puis on n'a pas tous les termes de l'entente parce que le gros questionnement derrière ça, puis la raison pour laquelle la Ligue nationale ne voulait pas faire ça, je pense qu'il y a deux choses. Un, il y a la diffusion. Parce que quand tu as la pause olympique, ben ça brise des contrats de télé. La Ligue nationale, c'est des revenus importants. Alors, cette fameuse pause-là, c'était pas toujours la bienvenue pour la Ligue nationale. De l'autre côté, c'est pour l'état-major des équipes. Parce que tu as un joueur, mettons, un joueur vedette, on s'entend aux Jeux olympiques, qui s'envoie les joueurs de la Ligue nationale, ce sont les meilleurs joueurs de leur formation respective qui vont aller aux Jeux olympiques. Ben il y a des risques de blessures. Parce que c'est un tournoi qui est relevé, c'est un tournoi qui, disons-le, est aussi intense que les séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Alors, il y a des risques de blessures. Alors là, tu hypothèques probablement une de tes têtes d'affiche, un de tes meilleurs joueurs, un joueur qui coûte le plus cher sur ton plafond salarial pour aller disputer un tournoi qui n'a aucun impact sur ta saison à toi, à moins que ton joueur se blesse.
Et tout ça à l'aube des séries éliminatoires, là, parce que ça se joue tout le temps en février-mars. Là. On arrive dans une période décisive de la saison, là.
Tout à fait, tu as 100% raison. Alors, je pense que ça a été, dans les dernières années, disons, le pas de recul. Maintenant, j'ai hâte de comprendre qu'est-ce qui a fait tourner le vent là, pour la Ligue nationale de hockey. Tu sais, on n'a pas donné de détails, on a juste dit qu'on est content qu'ils sont de retour, que les négociations ont été ardues. Moi, j'ai hâte de savoir les termes de cette entente-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que Gary Bettman a changé son fusil d'épaule? Qu'est-ce qui fait en sorte que les propriétaires et les états-majors des équipes ont décidé de laisser leurs joueurs y participer? Chose certaine, dans les dernières années, ça avait fait couler énormément d'encre. Rappelle-toi, Alex Ovechkin qui avait dit « Moi, je vais bouder la Ligue nationale si on ne me laisse pas aller jouer aux Jeux olympiques. » Pour les Russes, c'était quelque chose qui était hyper important. Malheureusement, pour lui, là, les Russes ne sont pas admis, encore une fois, au championnat des Jeux olympiques. Mais ça reste que ça va être intéressant. Bref, on va suivre ça. Puis parlant de cette nouvelle-là, il y a eu comme une sous-nouvelle lors de cette annonce-là. Et rappelez-vous, c'est en marge du week-end des étoiles de la Ligue nationale, on a annoncé qu'il va y avoir un nouveau tournoi international qui, cette fois-ci, aura un lien direct avec la Ligue nationale, c'est-à-dire qu'il va y avoir une coupe des quatre nations qui va être organisée dans deux villes d'Amérique du Nord. On parle une au Canada, une aux États-Unis en 2025. Bon, déjà, là, on pense à Montréal-Boston, là, c'est les noms qui reviennent le plus. Il n'y a rien de confirmé, mais ça pourrait être deux villes en lice pour accueillir le tournoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du Canada, des États-Unis, de la Finlande et de la Suède. Là, vous vous dites, ben là, c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont très, très bons, qui ne seront pas du tournoi. Je pense à un gars comme Nikita Kucherov, un joueur russe, qui ne sera pas de la compétition. Ça, c'est malheureux. Et je me demande encore pourquoi on n'a pas décidé de faire deux équipes européennes. Okay, je pense que ça aurait pu être intéressant parce que ça aurait pu donner un plus grand bassin aux équipes. Ça aurait pu permettre à plusieurs joueurs de participer à la compétition. Tu sais, André Vasilevski, qui est selon moi l'un des meilleurs gardiens, sinon le meilleur gardien de la Ligue nationale, ne fera pas partie du tournoi des quatre nations. Je trouve ça un petit peu dommage. Je comprends le lien là avec tout ce qui s'est passé au niveau politique, mais ça reste que quand tu as une compétition comme ça internationale où tu veux tes têtes d'affiche qui font rayonner un peu ta Ligue nationale, et il va manquer des éléments importants. Mais c'est une annonce qui est quand même très importante. C'est une annonce qui, rappelez-vous, qui fait suite à ce qu'on avait vécu. Là, l'année m'échappe. Là, je crois que c'est 2016, si je me trompe pas, lorsqu'il y avait eu la Coupe du monde de hockey, ça avait été complètement phénoménal. McDavid venait d'arriver dans la Ligue nationale. Le Canada l'avait emporté. Ça avait été vraiment là, tout un tournoi de hockey. Ça avait attiré les amateurs. Alors, je pense que c'est une bonne chose pour la Ligue nationale de hockey. Je pense que ça va également redonner une nouvelle saveur, si tu veux, à cette compétition-là. Alors, bref, j'ai hâte de voir. J'ai trouvé que c'était une excellente décision de la Ligue nationale également.
Et en fin de semaine, ben là, les gens se sont dit, voyons, ils n'en parlent pas encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Super Bowl en fin de semaine.
Oui, ben je voulais me garder une petite gêne dans les dernières semaines parce que on a parlé beaucoup de football cette année, mais là, j'ai pas le choix. Ça se passe dimanche, le Super Bowl 58. Moi, j'ai tellement hâte, là, je te jure, j'en parle à tous les jours avec mes collègues de travail, avec les athlètes que je côtoie, parce que tout le monde a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'un côté, c'est la reprise, finalement, du Super Bowl 54 qui avait eu lieu le 2 février 2020. Rappelle-toi, les Chiefs de Kansas City l'avaient emporté 31 à 20 contre les 49ers de San Francisco. À l'époque, il y avait un certain Laurent Duvernay-Tardif qui évoluait avec les Chiefs. Puis rappelez-vous, à la mi-temps, là, les Chiefs tiraient de l'arrière. On se disait, c'est fait. Les 49ers vont remporter le Super Bowl. Puis finalement, ça avait complètement basculé en deuxième demi. Ça avait fait en sorte que là, Pat Mahomes venait de s'inscrire parmi les grands corps arrière de l'histoire parce qu'il avait fait une remontée incroyable. Pour les Chiefs, ils ont remporté le Super Bowl l'année dernière également. C'est les champions défendants, rappelez-vous, contre les Eagles de Philadelphie. Ça pourrait être un troisième titre en cinq ans pour Casey. C'est incroyable. On peut maintenant parler d'une dynastie au niveau du football. Sébastien, là, c'est incontesté. Un troisième titre en cinq ans, s'ils sont capables de le faire, ce sera complètement fou parce que c'est non seulement la chance de remporter un troisième titre en cinq ans, mais c'est quand même une quatrième participation en cinq ans au Super Bowl. Ça prouve justement là, que le travail d'Andy Reid et de Pat Mahomes, c'est complètement incroyable. Tu sais, du côté des Chiefs, là, ça avait été une saison en dents de scie. On se demandait qu'est-ce que cette équipe-là était capable de faire. Puis là, ils arrivent en série éliminatoire, puis ils ne battent pas des petits clients. Là. On bat les Dolphins de Miami, on bat les Bills de Buffalo, et on bat les Ravens de Baltimore qui avaient terminé premier au classement général. De leur côté, San Francisco, étaient déjà parmi les équipes favorites en début de saison pour remporter le Super Bowl. Eux ont vraiment connu une belle saison, mais c'est toujours gagner le match ultime pour eux qui semble difficile. Les 49ers ont remporté 5 Super Bowls là, dans l'histoire de la concession, mais la dernière est arrivée en 1995. Depuis, les Niners ils ont atteint la finale seulement qu'à 2 reprises. Et rappelez-vous, la dernière fois, c'était contre les Chiefs de Kansas City. Alors ça, je pense que ça a un petit, un petit cachet supplémentaire, cette revanche-là pour les 49ers. Moi, je pense que ça laisse place à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui peuvent s'écrire dans ce match-là. Bref, j'ai très, très hâte de voir ça. Je vous rappelle que ça aura lieu du côté de Vegas. Tout le monde est là. Il y avait des entrevues et ça se poursuit cette semaine. Puis rapidement, si je vous fais un portrait des deux équipes, juste vous dire que du côté des 49ers, ben, comme je vous le disais, c'est une équipe qui a une énorme saison. Leur attaque là a été, assez bien équilibrée, 28 points environ par moyenne par match cette année, ce qui les positionne au troisième rang. Ils en ont accordé en moyenne 17, alors ça, encore une fois, ça les place au troisième rang dans la Ligue. La défensive des 49ers est incroyable. Là. Honnêtement, c'est une des bonnes défensives que j'ai vues dans les dernières années. C'est une défensive agressive, c'est une défensive qui peut autant arrêter la course, mais qui peut également contrer l'attaque aérienne. Moi, je pense que ça va être une de leurs forces dans ce match ultime-là. Du côté des Chiefs de Kansas City, ben, je vous le disais, c'est une attaque qui a eu de la difficulté à trouver ses repères cette saison. On parle d'une moyenne de 21 points par match au 15e rang. Du côté de la défense, par exemple, c'est une défensive qui a fait vraiment, vraiment presque tout parfait cette année. Deuxième au classement général, en haut des 49ers de San Francisco. Je pense qu'eux aussi, ça va être la clé contre un jeune corps arrière en Brock Purdy. Je pense que ça peut faire la différence. Mais c'est l'attaque, moi, qui me pose des questions du côté des Chiefs, parce qu'on sait tous, là, Travis Kelce a fait un travail incroyable depuis le début des séries éliminatoires, mais moi, si je suis l'entraîneur-chef des Niners, c'est sûr et certain que je mets beaucoup, beaucoup d'emphase sur Travis Kelce pendant le match et sur Pat Mahomes, parce que du côté des autres receveurs de passe, c'est pas la mer à boire. Okay. Il y a Pacheco, le porteur de ballon, qui est excellent. La course va être un élément clé pour les Chiefs, selon moi. Mais ça reste que si on est capable de contrer ça, les Niners devraient s'en tirer. Et du côté des prédictions, ben je te dirais une chose, je suis vraiment pas bon, premièrement. mais mon cœur aimerait que les Niners puissent enfin remporter le Super Bowl. mais ma tête me dit que Pat Mahomes a encore des cartes cachées. Cette semaine, c'est drôle, Sébastien, partout sur les tribunes, on parlait de la comparaison Pat Mahomes-Tom Brady. Pat Mahomes a été direct dans ses entrevues. Il a dit, écoutez, il me reste encore trop de bagues de Super Bowl à aller chercher pour être comparé à Tom Brady. Mais je suis encore très jeune. J'ai encore l'aspiration de le faire. Alors, faut que ça commence par un autre championnat. S'il est en mesure de le faire, ça va être tout simplement incroyable. Alors, je vois les Chiefs de Kansas City l'emporter. Puis je te dirais dans un match serré, le 28-21, quelque chose comme ça, là, okay. Je vois un match de cette façon-là.
Bien, on s'en reparlera la semaine prochaine. Bon Super Bowl, Olivier, puis un grand merci pour ton temps aujourd'hui.
À vous aussi, puis je vous le rappelle, mettez pas un petit 2 sur ma prédiction, parce que plus souvent qu'autrement, je me trompe.
On verra si tu maintiens la tendance cette année.
Merci.